Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou. Et en 2026, laissez-vous enchanter par l'expertise, la diligence et l'attention qui incarnent l'expérience Sounou dans 17 pays. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La famille, c'est un groupe social, un ensemble d'individus liés par le sang, la vie en commun, mais aussi les émotions et la communication. À certains moments de la vie, en particulier lorsque les enfants grandissent, le lien entre les générations peut se tendre, se brouiller, voire carrément se rompre. Aujourd'hui, nous allons parler de ces moments ou de ces périodes plus ou moins longues, difficiles pour ces relations parents-enfants. L'impression de ne plus se comprendre, la crainte que toute interaction se termine par des cris, une porte qui claque ou un silence pesant. Des tensions qui peuvent être plus fréquentes en fonction des âges, des étapes de certains enjeux de la vie familiale. Tenir tête, décevoir, envie d'émancipation, fréquentation critiquée, sentiment de ne pas être respecté. Les sujets de discorde peuvent être nombreux, mais derrière, qu'est-ce qui explique la difficulté de maintenir le lien au sein de certaines familles? Comment dépasser l'opposition de l'enfant, qui fait partie de son évolution? Comment accepter l'indépendance sans renoncer au lien? Apprendre à se comprendre pour s'épanouir ensemble en famille, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et pour nous joindre, le numéro WhatsApp de l'émission 33 7 61 18 46 41 pour essayer de trouver des solutions, des pistes. Lorsque l'on a l'impression de ne plus comprendre d'une génération à l'autre, à votre écoute, Jean Oscar Macasso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychopathologie clinique et psychanalyse, ethnopsychologue, également expert auprès des tribunaux de Paris. Et puis en fin d'émission, on va parler de l'impact de l'arrêt des financements internationaux des États-Unis un an exactement après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Répercussions en particulier pour la riposte contre le VIH, ces répercussions, elles sont réelles. Chiffres à l'appui, comme nous expliquera le directeur général de Coalition Plus, Vincent Leclerc, en fin d'émission.
Parce que la santé est la priorité de tout le monde.
Vous écoutez Priorité Santé.
Parce qu'on doit tous faire attention à notre santé, du plus jeune au plus âgé.
Et la santé, si on a parlé sur RFI.
La communication en famille, des échanges, du partage, évidemment des variantes en fonction des familles, des milieux, des cultures. Par contre, lorsqu'il y a de l'incompréhension, que le malaise s'installe, on peut avoir besoin de conseils, d'explications pour améliorer la situation. Et c'est bien l'objet de cette émission. Alors Jean-Oscar Macasso, est-ce que finalement les tensions, les brouilles et même les disputes en famille, c'est pas quelque chose de tout à fait normal ?
Lorsqu'on est humain, moi je pense que c'est tout à fait normal. Mais ça dépend aussi de l'intensité, aussi le conflit qui s'installe. Moi je pense que c'est là où il y a l'enjeu de pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas instauré et que, qu'il y ait d'inquiétude, une séparation ou un départ sans au revoir.
Et c'est ça un des signes qui doit alerter, on va dire, il y a la brouille normale, hein, on est à table par exemple, il y a certaines familles où on parle beaucoup, ça se coupe la parole, c'est un petit peu le bazar. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant finalement? Est-ce que ce n'est pas le silence?
Le plus inquiétant, effectivement, c'est le silence. Alors le silence, vous savez, ça ramène à beaucoup de choses, parce que lorsqu'on est dans le silence, on peut imaginer le pire. Et chacun pense de son côté. Mmh. Chacun réfléchit de son côté. Donc, il y a un clivage uniquement à l'intérieur même de la maison. Donc, tout cela fait que même si on a envie d'aller vers l'autre, on se méfie de l'autre. Mmh. Et donc, ce silence-là, c'est un silence presque diabolique, permettant, il faut dépasser ça pour affronter la réalité et faire en sorte qu'on puisse dépasser ça.
Jean-Oscar Macasso, on a beaucoup d'auditeurs, quand ils nous appellent, ils nous disent « dans notre famille, on ne parle pas ». Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, lorsqu'on dit « on ne parle pas », c'est une manière de dire.
On ne parle pas du fond.
Oui, et je pense qu'on ne parle pas du fond, mais c'est une manière de dire aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas. Mm. On parle ce qu'il faut parler et ce qu'il ne faut pas parler, on couvre normalement une couverture de 40 minutes. Là,
le couvercle dessus. On peut imaginer qu'il y a certaines périodes, et d'ailleurs on va le voir tout à l'heure avec les témoignages, il y a certaines périodes qui sont plus critiques que d'autres. l'adolescence, c'est vraiment le moment de la transformation. Et c'est là où va y avoir, pour certaines familles, un point de bascule dans la relation parent-enfant.
Vous savez, alors moi, je ne sais pas si je peux dire un parent peut ne pas avoir peur au moment de l'adolescence, au moment de son enfant, parce qu'on s'identifie à travers au moment de son enfant le plus souvent. Hein. Et en même temps, on projette même la peur.
Mais même certains disent, il n'a pas fait sa crise d'adolescence, il n'est pas normal. C'est ça, c'est, on oui, s'attend à ce que ça soit tellement explosif que...
Oui, mais la crise d'adolescence, ça dépend aussi des périodes. Vous savez, on peut rattraper ça plus tard. Hein. C'est pas, même à 77 ans, on peut faire la crise d'adolescence.
Oui, ça peut être plus tard. Quand on consulte un psy pour ce type de problème, la mésentente en famille ou le blocage de la communication, ça vient de qui l'initiative en général ? C'est les parents, j'imagine c'est plus rarement les enfants, sauf que ça peut arriver aussi, ou c'est un tiers, quelqu'un de l'extérieur qui s'inquiète du problème au sein de cette famille ?
Le plus souvent, alors, il faut avoir, on est dans deux espaces. Alors, lorsqu'on est en Afrique, en général, il faut dire les choses. Lorsqu'il y a l'inquiétude, d'abord, c'est le groupe d'abord qui observe tout. Donc, ils sont là pour observer de ce qui ne va pas sur l'enfant. Et donc, ça commence à se parler. Ce n'est pas communiqué, mais ça commence à se parler des uns des autres. Ah, mais cet enfant-là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que ça vient... petit à petit, aux oreilles peut-être des parents, ou bien l'un des membres nommés des parents, et la décision peut se prendre ensemble, permettant de savoir ce qui ne va pas autour de cet enfant-là.
Alors bien sûr, il y a le facteur psychologique, il y a peut-être aussi des choses très matérielles qui causent des disputes dans toutes les familles. Est-ce que vous observez des choses de ce genre ? Je pense bien sûr, on va en reparler tout à l'heure avec les questions des auditeurs, mais la fameuse question du téléphone, la fameuse question des heures de sortie, la fameuse question de qui tu fréquentes, ou je suis tombée amoureuse, c'est pas la bonne personne. Est-ce que ça, c'est vraiment des nœuds du problème dans les familles ?
Alors, certains problèmes sont visibles. D'autre part. Et lorsqu'on veut dire que je sors avec un garçon ou une fille, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas bien apprécié pour venir en parler avec ses parents. Alors que le téléphone, c'est visible. Voyez? Et de là, aujourd'hui, c'est la mondialisation. Chacun ne peut pas se dépasser de téléphone. Comment gérer les téléphones?
C'est un autre sujet d'émission.
Voilà. C'est autre chose. Donc, moi, je pense que tout cela amène toujours cette source de conflit et pour que chacun puisse vraiment se construire autour de la parole. Moi, je pense que c'est très important.
Donc, il y a l'objet de la dispute, mais il y a tout ce qu'il va y avoir derrière et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On prend d'ailleurs en ligne un auditeur. On part pour le Bénin.
RFI à Cotonou. 90 FM.
Alors Godefroy, c'est vous qui êtes en ligne. Godefroy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez 60 ans, Godefroy. Le problème pour l'instant, c'est avec votre fils. Il a quel âge ce garçon ?
Il a 16 ans. Il est en terminale.
Il est en terminale. Au lycée, vous avez d'autres enfants, Godefroy, s'il vous plaît ?
Oui, j'ai deux enfants.
Alors, la ligne, elle est extrêmement mauvaise. Est-ce que vous avez noté des changements depuis une certaine période ? Ça fait combien de temps que c'est compliqué entre vous ?
À partir de sa première.
Sa première. Donc, vers les 15 ans, ça a commencé à se perturber. Et ça se traduit comment ? Ça tourne comment à la maison, l'ambiance ?
Bon, non, il y a encore problème à la maison. Hein. C'est souvent entre l'école et lui et moi et son retour. Le plus souvent, oui.
Pourquoi vous allez le chercher à la sortie du lycée ?
Non, je ne vais pas le chercher. Moi, quand je reviens des cours, puisque je suis aussi enseignant,
d'accord.
Quand je reviens des cours, je dois l'attendre quelque part
ouais.
Et il doit revenir. Mais quand il finit les cours, il ne revient pas à temps. Il dit qu'il est en train de travailler avec ses camarades et puis moi, ça me met dans un état second chaque fois, toutes les fois.
Vous dites que ça me met dans un état second. Ça veut dire quoi ? Vous criez ? Vous faites quoi exactement ?
Ça me fâche parce que je l'attends pour le prendre avec son petit frère pour rentrer à la maison.
Donc ça veut dire que tous les jours, il y a la même crise qui se répète en quelque sorte.
Oui, c'est presque, non, bon, pas tous les jours, au moins dans une semaine, peut-être 3 à 4 fois.
Ouais. Est-ce que vous êtes arrêté à un moment donné pour vous poser, pour en parler ?
Bien sûr, puisque je dialogue bien sûr avec eux.
Et vous dites, ça me met hors de moi. J'ai une question très concrète parce que c'est une question qu'il faut poser. Est-ce que vous êtes déjà allé plus loin que les cris et que l'énervement verbal? Je veux dire par là, est-ce que vous avez déjà infligé des châtiments corporels, des coups à votre fils?
Bien sûr, l'année passée, quand il était en première, des fois, je lui pétais un peu de chicotte. Ouais. Mais quand j'en ai parlé à sa tante m'a dit, bon, de ne plus le frapper. Ouais. Et j'ai cessé.
Mais chicotte, ça veut dire que vous preniez la baguette ou c'était directement avec, vous le frappiez à la main?
Non, un petit pamatoir dans la main.
Mmh. Vous dites un petit, ça vous fait rire. Moi, je m'excuse, hein, je vais jouer le rôle de Caroline fait les gros yeux. Mais est-ce que c'est normal de traiter un enfant comme ça? Surtout, il commence à être grand, votre fils, il a 16 ans, il doit faire presque, j'imagine, la même taille que vous. Comment ça se passe quand vous lui infligez ces châtiments corporels? Comment il réagit?
Il est même grand, il a une taille même plus élancée que moi, même son père.
Donc il vous dépasse et vous le tapez. Maintenant c'est fini, comment ça se fait que vous avez renoncé? Même si bien sûr je ne remets pas ça en cause, hein, c'est une très bonne mesure. Pourquoi vous avez arrêté de le taper?
Puisque sa tante m'a dit de ne plus le frapper.
Eh bien elle est de très très bons conseils, cette tante. Est-ce que vous avez parlé avec lui de ses châtiments corporels?
Avec mon garçon?
Ouais.
Non, je ne change plus à propos de ça.
Donc ça veut dire que pour vous, l'affaire est classée, c'est tout oublié?
Non, je ne le frappe plus.
Oui, mais...
Sauf que bon, quand je dois l'attendre plus que 2 à 3 heures de temps où il est censé d'y revenir pour que je puisse les prendre pour rentrer et faire encore plus d'une heure sur la voie. Donc moi, des fois, je lui ai dit, s'il sonne 19 heures et tu n'es pas encore là, je suis obligé de partir avec ma moto et tu vas prendre un semi-train et rentrer toi-même.
D'accord, j'ai bien compris. J'ai une autre question à vous poser avant de donner la parole à Jean-Oscar Macassou qui est extrêmement attentif à ce que vous dites. Est-ce que vous avez des moments à tous les deux où vous faites quelque chose qui vous fait plaisir? Des moments père-fils où, je ne sais pas, vous regardez un match, vous parlez d'un film, vous allez faire une promenade. Est-ce que vous avez des moments comme ça tous les deux?
Non, non, à part l'école où moi je les ramène, puisque moi-même je dois aller au cours, revenir. Donc il y a tout ce mélange-là qui ne me permet pas.
D'accord.
Tout ça là. Mais il n'y a aucun problème de dialogue entre les enfants et moi. Hein. Si c'est le dialogue, il n'y a pas. C'est sur ce point-là surtout.
Ouais, bon,
je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu trop rigoureux. Je ne sais pas si ça, l'éducation qu'on a reçue sur des parents, c'est une éducation très stricte d'ailleurs. Ce qui fait que peut-être les inculquer ça de la même manière, moi... Je dis que c'est à l'occidental, on dit que tu gardes tes enfants comme des Français, toi-même tu agis comme des Français. Est-ce que c'est pour cela qu'ils se comportent ainsi? C'est une question.
Godefroy, donc, qui reproche à son fils de ne pas arriver à l'heure, mais qui se pose aussi des questions sur lui-même, Jean-Oscar Macassou. Il n'est pas dans l'impasse et dans le sens unique en disant « le problème vient simplement de mon fils ». Il s'interroge et il a besoin de conseils. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, et j'ai bien écouté, hein, et donc, monsieur, je pense qu'il a besoin aussi de prendre le recul et de voir qu'il n'y a pas seulement le problème de son fils. Le plus souvent, les parents oublient ça. Ils pensent que le problème vient seulement de l'autre. Mais si on revoit à peu près de ce qu'il vient de dire, j'ai relevé vraiment une chose, c'est l'autorité. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait plus l'autorité. C'est comme si son fils l'échappait, il ne comprenait plus. Ça veut dire que sa parole d'un père qui voudrait faire comme il veut. C'est ça aussi, cette directive-là aujourd'hui, c'est très difficile pour les parents. On le sait très bien.
Ils ont l'impression de perdre le contrôle.
Ils ont besoin de perdre le contrôle. Et en même temps, la génération d'aujourd'hui a besoin aussi d'écoute. Et de laisser le temps aussi d'expliquer le pourquoi. Même si les parents sont angoissés, ils sont tellement inquiets, mais les jeunes, ils ont besoin pour que les parents puissent aussi avoir ce temps d'écoute, même s'ils ne peuvent pas le convaincre.
Et c'est pas simplement le fait d'être occidental ou pas occidental qui conditionne ça, c'est un besoin d'échanger. Ils sont comme ça aussi entre eux, entre amis, ils se parlent et ils ont besoin de parler à la maison.
Exactement, ce temps-là, c'est très important pour les enfants. Vous savez, peut-être on n'arrive pas à comprendre ça. Dans la journée, ils sont en classe, hein, ils sont dans des interrogations, ils sont là. Mais après, et le lycée, parfois ils ont un petit temps de pouvoir... essayer de libérer un peu cet esprit, un peu de concentration. Alors que c'est en ce moment-là que son père veut à tout prix qu'il soit avec lui. Moi, je pense que tout cela...
Est-ce que d'une certaine manière, lui demander simplement comment tu vas ce soir plutôt que t'es pas à l'heure, peut-être que le lendemain, il arrivera à l'heure.
Oui, il faut chercher toujours des solutions. Moi, je pense que tout est possible. Mais malheureusement, monsieur, comme il a bien dit, il est tellement rigoureux. Il veut à tout prix que son fils soit comme il veut.
Quelque chose d'essentiel, Jean-Oscar Macassou. Discuter avec son enfant, dialoguer, ce n'est pas abandonner l'autorité.
Et c'est vrai. Ce n'est pas abandonner l'autorité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la force des parents aujourd'hui. Quelles qu'en soient les difficultés de l'enfant, il faut qu'il soit à l'écoute, qu'il instaure le dialogue. Et je pense qu'à partir de là, ils vont observer qu'il pourra avoir l'amélioration. D'ailleurs, il faut toujours répéter. C'est la meilleure méthodologie un peu pour l'éducation. On ne peut pas dire que je parle une seule fois, donc l'enfant va écouter et répéter, essayer d'être à l'écoute. Surtout, je précise très bien, avec un ton qui permet aussi d'amener l'autre à écouter. Parce que parfois, les parents, quand ils disent « je sors de moi », ce n'est plus une parole qui sort. C'est la colère, c'est la violence.
Il faut contrôler l'émotion aussi.
Il faut contrôler l'émotion.
Voilà pour ces conseils, Godefroy. Très, très bonne journée à vous. Jean-Oscar Macassou, on va poursuivre notre échange. D'autres auditeurs qui attendent, bien sûr, juste après ce titre des Strokes, The Adults Are. C'est tout de suite dans Priorité Santé sur RFI.
Don't go there, 'cause you'll never return. I know you think I'm
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui des relations entre les générations. Je ne comprends pas mes enfants, comment expliquer les tensions, le manque de communication, surtout comment rétablir le lien. Pour vous écouter, répondre à vos questions, toujours dans les studios de RFI, Jean-Oscar Macasso, docteur en psychopathologie clinique et psychanalyse. Tout à l'heure, on parlait de la technologie qui peut un petit peu être l'arbre qui masque la forêt. On a un témoignage en lien avec cette question des comportements problématiques associés à certaines technologies numériques. C'est Soumaré en Mauritanie. Il nous a écrit sur WhatsApp. Son dernier fils est âgé de 17 ans. Ses agissements l'inquiètent parce qu'il est accro au téléphone portable, en particulier aux jeux de paris en ligne. Et lorsque Soumaré prive son fils de téléphone, on imagine qu'il lui confisque, eh bien ce dernier casse tout autour de lui. Ce père se retrouve complètement démuni, il a besoin de conseils. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors c'est vrai que d'un côté il y a la punition, de l'autre il y a la réaction. Et en fait là dans ce cas précis, ça passe par le physique, privation physique de l'objet et donc du comportement problématique du pari en ligne avec ce que ça peut représenter de risques financiers et le fils qui se montre violent en réponse. Là on a vraiment un gros problème qui n'est pas simplement de communication.
Oui, on a un gros problème. Effectivement, alors là, lorsque j'entends ça, c'est vrai que je me dis, comment faire? Et si j'ai bien compris, c'est son fils qui a dit, ou c'est
son petit-fils.
Voilà, c'est son fils. Et alors, on relève déjà un jeune qui entre vraiment dans une problématique vraiment d'addiction. Hein, et s'il faut être dans un fonctionnement de jeu en ligne déjà, ça veut dire qu'il va très loin, surtout à son âge. Alors, je ne sais pas quel est son projet, je ne sais pas quels sont ses désirs normalement d'avenir, mais ce qui m'interpelle dans cette situation, c'est que si ça continue, moi je pense que ça risquerait vraiment d'être très très grave. Et donc, je conseillerais le père, pour l'instant, de faire en sorte qu'il essaye de trouver vraiment un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être un peu influent autour de lui, de l'aider. Parce qu'étant seul, je ne sais pas là où ça pourra y arriver.
Ça veut dire aussi oser en parler, parce qu'il y a certains parents, quand ils se retrouvent face à des comportements problématiques de leurs enfants, ils ont honte. Ils ont honte d'avoir un enfant qui joue, ils ont honte d'avoir un enfant qui boit, ils ont honte d'avoir un enfant qui vole, et ils n'osent pas en parler. Donc il faut aussi trouver la personne de confiance, Jean-Oscar Macasso.
Oui, il faut trouver la personne de confiance. Alors, je ne sais pas si la maman de ce jeune homme est là. Vous savez aussi, non seulement peut-être le père peut avoir cette honte-là, mais il faudra que le couple puisse en discuter et trouver vraiment des solutions ensemble pour soutenir notamment leur fils. Et le plus souvent, vous savez que les mamans ont souvent plus de facilité,
une capacité de dialogue.
Hein.
Mais il faut bien comprendre que si vous avez utilisé le mot addiction, c'est qu'on n'est pas simplement dans une sorte de caprice, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ce n'est pas un jeu comme les autres, ce n'est pas anodin. Derrière, il y a ce circuit de la récompense, il y a un vrai besoin qui peut devenir physique et psychique. Donc aussi, il faut l'envisager, ce n'est pas parce qu'on prive la personne de l'objet problématique que le problème est résolu.
Oui, effectivement. D'ailleurs, lorsqu'on prive, on ne peut que accentuer un peu le désir, vous voyez un peu. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un vrai travail pour que ce jeune homme-là prenne conscience de la difficulté aussi de ce qui peut vraiment produire au niveau de son environnement et d'ailleurs même s'oublier lui-même parce qu'il ne voit pas encore comment se construire, quel est son avenir. Donc il faudra vraiment l'entourer, moi je dirais comme ça, il faudra l'entourer, que ce soit les parents, que ce soit d'autres personnes qui sont en dehors des parents, pourquoi pas. Pourquoi pas un professionnel ?
Mais c'est vrai, vous dites, il ne sait pas quel est son avenir. Mais en même temps, on les trompe, certains jeunes, sur leur avenir avec les publicités, les promesses d'argent facile. Donc les parents, dans tout ça, ils ont du mal à s'y retrouver. Quand on est ici à Paris, on se promène dans le métro, partout, il y a des publicités pour les paris en ligne qui incitent, qui font imaginer aux gens qu'ils vont trouver de la fortune. Même s'il est marqué en tout petit en bas, jouer comporte des risques, il faut vraiment se coller à l'affiche pour voir ces risques.
Oui, alors bon, moi je pense que le père, il a déjà un avantage. Il découvre déjà qu'il joue en ligne.
Il est au courant.
Il est au courant. Donc, c'est déjà une possibilité vraiment de saisir et de voir comment construire vraiment, c'est-à-dire un espace pour soutenir son enfant.
Ça veut dire qu'il ne faut pas aller forcément dans le cri, dans la condamnation, jeter l'anathème, mais plutôt, qu'est-ce que tu trouves comme plaisir quand tu joues? Donc, pourquoi tu fais ça?
Exactement, c'est ça. Donc, il faudrait vraiment qu'il instaure comme dialogue pour que son fils commence à prendre conscience.
Ça veut dire aussi que le parent, il doit prendre sur lui parce qu'il peut réprouver, trouver ça horrible. Ça peut même être interdit parfois même par la religion. Ça arrive aussi.
Oui.
Malgré tout, il va falloir qu'il s'asseye sur ses propres tabous et interdits pour instaurer ce dialogue.
Et c'est très important ce que vous dites parce que le plus souvent, les parents sont démissionnaires ou ils sont aussi dans le déni aussi de ce qui se passe.
Ils sont fâchés aussi.
Ils sont fâchés aussi. Mmh. Donc, ils sont dans les sanctions. Mais les sanctions, ce n'est pas ça qui va résoudre normalement le problème. D'ailleurs, même moi, je pourrais même dire, il faut même être curieux. Il faut même être, ça ne veut pas dire de jouer, mais être curieux de savoir ce qui se passe autour de ce qu'il est en train de mettre en place. Et c'est comme ça qu'on peut avoir les informations, les éléments nécessaires pour aider normalement ce jeune-là.
Allez chercher les renseignements. On va tout de suite prendre un auditeur en ligne avec nous. On part pour le nord du Cameroun.
La santé, c'est notre priorité.
Priorité santé.
Et la santé, si on en parlait.
Sur RFI.
Et c'est Florent qui est avec nous. Florent, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc à Marois, vous avez 41 ans, vous travaillez dans le secteur de l'éducation. Et assez tôt dans votre vie, j'imagine, vous avez dû vous occuper de vos deux sœurs. Elles avaient quel âge à ce moment-là?
17, 18 ans.
Vos sœurs avaient, vos sœurs avaient 17, 18 ans à ce moment-là? Ou elles étaient plus jeunes que ça?
Bon, l'une était plus jeune, l'une avait 14 ans et l'autre avait 17, 18 ans.
Et vous aviez quel âge?
Moi, j'ai aujourd'hui 41 ans.
Oui, aujourd'hui. Mais quand vous êtes occupé d'elles, vous aviez quel âge à ce moment-là?
Bon, j'étais dans les 31, 32 ans.
Donc, ça veut dire que vous êtes retrouvé en quelque sorte dans le rôle du père par procuration.
Effectivement, puisque le papa était décédé et il fallait continuer les études. Moi, donc, déjà, jeune travailleur, il fallait que je m'occupe d'elle.
Et quand elles sont devenues justement grandes ados, vous avez connu quoi comme difficulté avec elles?
Bon, surtout lorsqu'elles partaient en vacances chez la maman. Et de leur retour, c'était difficile de les encadrer. Déjà, à ce moment-là, elles ne supportaient plus de toujours rester à la maison. Lorsque je les empêchais de sortir, quoi. Et puis, chez moi, c'était la rigueur des études ou rien. Bon, lorsqu'elles ont atteint la puberté, ça devenait beaucoup plus difficile pour moi. Et elles ont même décidé même de partir de la maison et de rester chez la maman. Aujourd'hui, elles sont surtout presque même déroutées parce que, malgré les études qu'elles ont faites, l'une qui a fait le niveau licence plus 2, l'autre qui a eu son probatoire, tous sont au quartier, mais tout ce qu'elles savent faire, ce n'est que boire l'alcool. Et je me dis que j'ai échoué parce que je n'ai pas pu mieux encadrer, peut-être parce que je ne dialoguais pas avec eux. Surtout que j'avais mon papa aussi qui nous avait appris la rigueur, avec ce qui est difficile.
Vous souhaitiez, Florent, transmettre l'héritage d'éducation de votre père, et vos sœurs, elles n'étaient pas prêtes à ça. Vous les jugez aujourd'hui, ces sœurs, vous dites qu'elles n'ont rien réussi. Pourtant, en même temps, vous me parlez et vous dites qu'elles ont quand même une licence à l'université. Je ne comprends pas bien, en fait. Comment, si elles ne passent leur temps qu'à sortir et qu'à boire, elles ont pu réussir leurs études?
Mais aujourd'hui, ça n'est pas du tout présentable dans la société.
En fait, vous avez honte de leur comportement, si je comprends bien, Florent.
Effectivement, et j'ai peur de transmettre cela également à ma toute petite fille qui n'a qu'11 ans. Je ne sais pas comment je veux faire pour éviter, puisque le dialogue est difficile entre nous.
Le dialogue est déjà difficile avec votre fille?
Non, avec ma fille, ça marche bien pour l'instant. Ouais, mais c'est lorsque...
Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Des conseils pour ne pas répéter le même schéma, c'est ça?
Effectivement.
Donc, cette expérience compliquée pour notre auditeur du Cameroun, c'est vrai qu'il s'est retrouvé chargé de famille alors qu'il n'était peut-être pas prêt à ça. Aujourd'hui, son rôle a complètement changé, puisqu'aujourd'hui, c'est un papa, ce n'est pas la même chose.
Oui, mais il y a quand même les séquelles. Il y a les séquelles. Bon, il a été parentalisé rapidement. Après le décès de son père, donc il a pris en charge notamment ses sœurs. Et je pense que monsieur est dans un moment de culpabilité, il se culpabilise beaucoup. Et en même temps, il voulait bien faire. Mais malheureusement, il voit qu'il n'a pas pu faire en sorte que son soutien soit bénéfique. Et donc, il se pose la question aujourd'hui pour sa fille, de 11 ans. Voilà. Moi, je dis, en tant que papa, je me dis toujours, on essaie de faire ce qu'on peut. Mmh. On ne peut pas dire qu'on peut bien faire des choses. Et mais la première démarche, peut-être là, aider quand même à comprendre un peu ce qui s'est passé avec sa sœur. Maintenant, avec sa fille, il va essayer de faire en sorte que sa fille ne reproduise plus. Mmh. Étant donné qu'il est conscient maintenant de la manière dont il a fonctionné avec sa sœur, et aujourd'hui, c'est à lui aussi, je ne lui donne pas une recette, mais c'est à lui aussi de se dire comment je dois construire aujourd'hui la relation avec ma fille pour qu'elle ne soit pas dans cette dans l'autorité, vraiment, où il n'y a pas vraiment l'écoute. Je pense qu'il faudra qu'il soit disponible.
Florent, moi j'ai une question. Voilà. Vous décrivez vos sœurs, elles ne passent que leur temps à boire. J'ai une question très directe pour vous. Elles ne passent vraiment que leur temps à boire ? Elles n'ont pas d'amis, elles ne sortent pas, elles ne lisent pas de livres, elles n'ont pas d'activité, elles ne font rien.
Non, elles n'ont pas d'activité.
Elles font quoi de leur journée exactement ?
Bon, depuis que j'ai décidé de ne plus continuer à supporter les études, là, c'est à tout moment des problèmes, puisqu'elles voulaient que je continue de supporter la charge, et moi j'ai trouvé que ça ne pouvait plus.
Donc il y a eu aussi des problèmes financiers entre vous, si je comprends bien.
Bon, le problème financier ne posait pas trop de problèmes. C'était surtout lié au fait que déjà, conscient qu'elles sortent, elles peuvent rentrer tard, et surtout qu'elles ne sont pas plus contrôlables.
Plus contrôlables. Aujourd'hui, elles ont quel âge, vos sœurs?
L'une est dans les 29 ans déjà, l'autre dans les 23 ans.
Oui, donc aujourd'hui, ce n'est plus des petites filles, vos sœurs, c'est des femmes.
C'est des femmes, effectivement.
Jean-Oscar Macasso, ça n'a rien à voir. Une femme de 29 ans, une petite fille de 8 ans, on est dans deux mondes.
On est dans deux mondes différents.
Et quand j'entends contrôler mes sœurs de 29 ans, là, j'ai un petit peu le sourcil qui se lève.
Oui, alors, il y a beaucoup d'ouverture, peut-être de regard. C'est le grand frère. Il est resté vraiment dans ce regard de mes petites sœurs. C'est-à-dire qu'il ne les a pas vu peut-être grandir. C'est comme ça que j'essaie de comprendre aujourd'hui. Donc, il voulait vraiment garder vraiment cette position pour honorer aussi la place en tant que l'aîné. Mais malheureusement, les grandes sœurs, les petites sœurs plutôt, aujourd'hui n'ont pas vraiment accepté peut-être sa place. Et encore plus, moi je pense que la place de grand frère à un certain âge, il faut aussi qu'il y ait quand même une mère à côté. Ou une personne féminine permettant aussi de les accompagner. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce passage-là où ses sœurs ne pouvaient plus peut-être l'écouter parce qu'elles devaient aussi passer à autre chose.
Il faut accepter le changement. Très bonne journée à vous, Florent. C'est maintenant de Mauritanie Nouadhibou. Castou nous a adressé ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, je m'appelle Aïssatou, j'appelle de la Mauritanie, plus précisément dans la ville de Nouadhibou. Moi j'ai un ado de 18 ans avec qui je m'entendais très bien au début, mais depuis ces problèmes de crise d'adolescence, on ne vit vraiment pas bien. Et là, il a deux sœurs, mais il pense que moi j'aime plus ses sœurs que lui. Le dialogue ne passe pas, il se renferme sur lui-même. J'ai essayé par le biais des gens qui me sont proches pour lui parler. Des fois, ça passe, mais des fois, ça ne passe vraiment pas. Alors, dès que j'ai vu le thème sur l'émission, donc je me suis dit de venir pour voir est-ce qu'il y a possibilité qu'un dialogue s'instaure et comment faire pour m'y prendre. Je ne sais pas l'erreur, si elle vient de moi ou il vient de lui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on me donne des conseils pour plus de compréhension? Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Dans ce message d'Assou, il y a quelque chose qui marque. Est-ce que le problème vient de moi ou vient de lui? Déjà, le gros du travail est fait puisqu'elle se pose les questions.
Exactement. Hein? Maman, j'ai apprécié vraiment la manière. Presque elle est psychanalyste. Maman, je me dis ça vraiment. Non, mais déjà se poser des questions, c'est très important.
Et puis il y a cette rivalité au sein de la famille. Le fils qui reproche, tu préfères mes sœurs. Alors comment on discute? Parce que c'est irrationnel. Quand une maman, on lui dit tu préfères un enfant par rapport à l'autre, il y a des familles où ça existe, mais là, a priori, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui fait mal au niveau des émotions. Comment est-ce qu'on discute? Est-ce que vous conseilleriez, comme j'en parlais tout à l'heure à un autre auditeur, un moment fils-mère, où on se retrouve, où on discute tranquillement?
Oui, alors, là, sa remarque ou sa manière de dire des choses, c'est vrai que c'est touchant. Mmh. Et le plus souvent, on voit toujours que les garçons sont proches devant de leur mère. Hein. C'est ça aussi, les deep freudiens, entre guillemets. Mmh. Voilà. Mais là, c'est ce que je relève là quand même, c'est que j'ai quand même l'absence de père. Mmh. Voilà, je ne sais pas, bon, on ne peut pas aller plus loin pour l'analyse.
On ne sait pas ce qui se passe dans la famille.
On ne sait pas ce qui se passe dans la famille. Aujourd'hui, le garçon, presque, il ne communique plus. Mm. Presque, il déplace un peu son discours en disant que tu aimes énormément mes sœurs plus que moi.
Tu ne m'accordes pas assez d'attention.
Tu ne m'accordes pas assez d'attention. Et j'essaie d'interpréter ça pour essayer de comprendre un peu ce qui ne va pas.
Mais imaginons demain, Stou, elle dit à son fils, viens, on va aller faire une promenade tous les deux. Il dit non, de toute façon, je n'ai pas envie. Comment elle réagit dans ces cas-là? Comment est-ce qu'elle l'attire pour rétablir ce dialogue?
Et elle doit, je pense, de ne pas tellement être dessus. Mmh. Parce que les paroles des enfants, parfois, c'est réactionnaire. Par moment.
Il ne faut pas insister.
Il ne faut pas insister. Il faut attendre du moment où il le faut pour essayer de revenir encore lui parler. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de son fils, hein, alors qu'il a
18 ans.
Il a 18 ans déjà. Est-ce qu'il est en train de construire autre chose et qu'il a du mal un peu à se confier.
Il a son jardin secret.
Il a son jardin secret. Donc, la mère, le conseil pour moi, il faut qu'elle soit patiente et observer un peu ses mouvements et venir au bon moment pour reprendre la communication. Mm. Moi, je pense qu'il se prépare aussi. Il se prépare à communiquer avec sa mère. Vous savez, souvent, la séparation, parfois, ça fait peur. Mm. Peut-être il est en train de construire un discours, mais il s'est dit, est-ce que ma mère sera prête à écouter ce que je vais lui dire? Est-ce que ça serait violent? Donc, en ce moment-là, pour l'instant, il est un peu à l'écart, tout doucement, pour essayer de réfléchir aussi.
Donc, rétablir ce dialogue, mais en respectant la temporalité de l'enfant.
C'est ça.
C'est ce conseil à ces toujours, Oscar Macasso. Un grand merci pour toutes vos réponses. Pour votre écoute.
Merci beaucoup.
On se dit à bientôt certainement dans notre émission. Dans quelques instants, on va parler de la lutte contre le VIH fragilisé par la baisse des crédits internationaux américains en particulier, juste après ce titre de Nelson Tivan et Makadzi, Mama's Baby. Lo que supo bala no mostraba en fondo mambona. Lo que supo bala no mostraba y quiso mambona. Milupa, pona de kutak. Lo que ni mubona o se ni zake no bona kutak. Tio pa, pona de kutak. Lo que ni mubona o se ni zake no bona kutak. Kame bona va kulumen. Il y a un an, l'entrée en fonction de Donald Trump qui a changé la donne pour la santé mondiale. On évoque à présent les conséquences sur le terrain du gel des financements américains. Manque de moyens qui se traduit par une véritable menace sur la riposte contre le VIH. Pour en parler avec nous, Vincent Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Coalition Plus. Coalition Plus et ses partenaires, d'autres grandes associations de lutte contre le VIH-Sida qui ont mené une enquête dans une quarantaine de pays, 47 exactement. Et ce qu'il en ressort, et ce que vous l'évoquez, c'est ni plus ni moins l'effondrement, la menace d'effondrement de cette riposte.
Effectivement, depuis l'arrivée de Trump et les gels des financements, il y a une déstabilisation totale de la réponse au VIH, des services de santé, mais aussi des associations communautaires sur le terrain qui font ce travail de proximité, d'offrir des services quand le système de santé est défaillant et d'aller vers les populations les plus vulnérables pour offrir des préservatifs, du dépistage et faire le lien avec le système de santé. Et ces services-là, essentiels pour mettre fin à l'épidémie, sont menacés.
Ça veut dire, ce constat, c'est que, eh bien, il y a un effet boule de neige sur toutes les activités. Vous en avez cité quelques-uns. Ça va aussi sur le contrôle de la charge virale, le soutien aux patients. Or, le problème, c'est que des dizaines d'années de lutte contre le sida ont montré que la véritable solution, c'est bien une approche globale. Là, du coup, par manque de moyens, si j'ai bien compris, on est obligé d'abandonner certains leviers de la lutte.
Fin 2024, nous étions très optimistes sur notre capacité à mettre fin à l'épidémie de VIH, avec une bonne trajectoire de baisse de contamination. Or, là, effectivement, les services comme la PrEP, vous savez, ce traitement préventif, le dépistage, même l'accès au traitement précoce sont perturbés. Donc, effectivement, tous les efforts que l'on a faits, et alors qu'on était dans une bonne trajectoire, eh bien, aujourd'hui, on pense que l'épidémie de VIH va s'installer dans le 21e siècle, comme elle l'a été à la fin du 20e siècle.
Et ça va loin, et très concrètement, en termes de conséquences, puisqu'il y a même des traitements antirétroviraux, hein. C'est la clé de cette lutte, qui sont devenus inaccessibles. Il y a aussi les préservatifs, et puis il y a même les services juridiques, parce que lutter contre le VIH, ça passe aussi par les droits des personnes.
Effectivement, le VIH, ce n'est pas une épidémie comme les autres. C'est une épidémie qui touche aux marges de la société, qui touche aux maux de la société. Et on a souvent des populations qui sont plus victimes du VIH parce qu'elles sont discriminées, parce qu'elles sont en insécurité. Et dans des contextes souvent fragiles, les associations de lutte contre le VIH permettaient à ces populations d'avoir accès aux services de santé. Toute cette déstabilisation des associations de première ligne communautaires sur le terrain fait que ces populations-là sont encore plus vulnérables. Et qui dit vulnérable dit plus de risque de contracter le VIH. Et là, pour l'épidémie, c'est une catastrophe.
Alors, c'est vrai qu'on pointe d'abord les États-Unis, leur responsabilité, parce que c'est le plus spectaculaire. Mais les autres pays occidentaux ne sont pas en reste parce qu'en fait, la baisse des financements, elle est généralisée.
En fait, les États-Unis ont simplement ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés un certain nombre de pays. Effectivement, les pays européens baissent massivement leur aide publique au développement, leur contribution aux services de santé. Un exemple très concret, c'est que le Fonds mondial, qui est un des plus grands bailleurs de la lutte contre le sida, en fait, a une baisse de budget très importante pour son prochain cycle de financement, parce que notamment un certain nombre de pays européens ont baissé leur contribution ou n'ont pas encore annoncé leur contribution, comme la France, mais qui a déjà annoncé la couleur, ce sera une grosse baisse de la contribution de la France au Fonds mondial.
Alors, il y a des restrictions de budget, mais il y a aussi toute une approche idéologique, faut le souligner, une approche conservatrice, voire anti-science de la santé, qui a montré par le passé ses limites pour une infection virale comme le VIH, avec notamment un conditionnement des aides à des questions morales, religieuses. Ça veut dire qu'on mélange tout, en fait.
Alors, l'aide internationale a toujours été conditionnée, mais là, ce qu'on voit avec l'approche des Américains sur l'aide bilatérale, c'est vraiment une approche MAGA. Toute l'aide accordée par les États-Unis, elle est estampillée sur Make America Great Again. Donc, effectivement,
il y a ultra conservatrice.
ultra-conservatrice et ça se traduit par exemple par l'exclusion de certaines populations des services de santé financés par les Américains. Ça veut dire travailler davantage avec les associations confessionnelles plutôt que les associations communautaires. Ça veut dire aussi des contreparties, par exemple, dans ces accords que négocient les Américains. Avec un certain nombre de pays comme le Kenya, il y a la mise à disposition des données de santé des populations de ces pays en contrepartie de l'aide américaine. Et ça, c'est une catastrophe en termes de protection des données personnelles.
Il faut dire que ça va loin, ces restrictions. Ce n'est pas simplement, on va dire, pour celles et ceux qui écoutent et qui seraient sensibles à ce type de questions, sur la santé des personnes ayant des relations sexuelles avec le même sexe. C'est aussi la contraception, la santé reproductive, tout ce qui est santé des femmes également est impacté.
C'est ce que montre notre enquête d'ailleurs, c'est que les femmes sont la première population touchée par cette insécurité que génèrent ces coupes de financement, à la fois parce qu'il y a moins d'accueil juridique, moins de protection des personnes, mais aussi des services comme par exemple la vaccination HPV, qui est essentielle pour la protection contre le cancer du col, eh bien tout cela c'est également est déstabilisé. Donc les femmes sont effectivement victimes de cette situation et on ne peut que appeler à un maintien par l'ensemble des États de leur aide internationale pour contrer cette situation catastrophique pour la santé mondiale. Et encore une fois, l'insécurité sanitaire, c'est une question qui concerne tout le monde.
Ça ne s'arrête pas aux frontières et on le sait bien. On l'a vu avec la pandémie, on le sait depuis des dizaines d'années avec cette lutte contre le VIH. Et c'est important de le dire parce que des échéances très importante ce profil pour la lutte contre les épidémies. Merci à vous, Vincent Leclerc. Priorité santé, c'est fini demain dans notre émission. Soignez les soignants, des professionnels de santé exposés aux risques compte tenu de l'intensité des émotions, mais aussi au surmenage. On leur donnera la parole demain. On se retrouve à 9h10 temps universel. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité santé avec le groupe Sounou. Et en 2026, laissez-vous enchanter par l'expertise, la diligence et l'attention qui incarnent l'expérience Sounou dans 17 pays. Bonne année.